Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Killing you is going to give me a lot of satisfaction.
Well, you make up your own mind, because I'm walking.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale série. Alors, on va d'abord vous causer d'une série mythique qui s'est étendue de 1973 à 1990, avec des longues pauses entre deux, qui a même eu droit à un remake d'ailleurs. C'est vraiment une série culte. Si je vous dis L'homme à la sucette, si je vous dis L'homme qui n'a pas de cheveux, vous me dites tout de suite.
Kojak.
Et voilà, on va parler de Kojak, donc, qui est sorti en intégrale chez Elephant Film. On va rester dans le domaine des séries policières pour aborder aussi d'autres séries, dont encore une sortie chez Elephant Film, c'est Grace. Là, il y a les trois premières saisons qui sont sorties. La série se poursuit aujourd'hui, on va même arriver à la cinquième saison. Grace, donc, qui sort chez Elephant Film. On vous parlera aussi d'une autre série qui sort chez Elephant Film, alors à point nommé, puisque la nouvelle saison ne va pas tarder à débarquer en France. Cette série, c'est une série policière suédoise, s'appelle Thin Blue Line. Série passionnante, on en causera, qui est donc disponible chez Elephant Film. Et puis, on ira se balader du côté de l'horreur, de l'horrifique, chez ESC Éditions, avec la série adaptée du film culte, d'après Stephen King, le film de Romero, à savoir Creepshow. Et après, on ira faire un petit tour du côté du post-apocalypse avec The Last of Us, et qui est disponible chez Warner et HBO pour le regarder en ligne. Et puis, on vous causera de deux séries disponibles chez Crunchyroll. On est du côté de l'anime. Frieren Beyond Journey's End and Mashal, l'autre série qu'on abordera. Et que je vais aborder tout de suite en compagnie de mon fidèle acolyte. Il y a parlé déjà il y a 30 secondes. Je vais bien sûr parler de Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Avant d'aller plus loin dans l'émission, je voulais remercier pour leur aide, pour nous avoir permis de faire cette émission, Victor Lopez et Timothée Tricard. Mon cher Damien, tout d'abord, sais-tu ce qu'est la loi Miranda ?
Ça me dit un truc.
La loi Miranda, c'est la loi qui oblige un policier américain à lire ses droits à la personne qui l'arrête. Voilà. Et faut savoir que cette loi Miranda, elle est liée à une affaire qui s'appelle l'affaire Marcus Nelson. Et l'affaire Marcus Nelson, en fait, c'est un téléfilm de 73. C'est un docudrama. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, de la télévision américaine, qui est donc basé sur des faits réels et qui est diffusé sur CBS. Et qui met en scène, dans ses personnages secondaires, un certain Kojak. Et le succès du téléfilm va être tel que les spectateurs vont demander le retour de Kojak. Et à partir de là, le lieutenant Kojak, qui d'ailleurs Elle n'aime pas que les sucettes, il aime les cigares, mais les sucettes n'arrivent pas tout de suite. Il y a quelques épisodes avant qu'ils se mettent à manger des sucettes. Et ce sont les histoires de Kojak dans le 11e district de la police de New York. Alors, c'est une série... alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est une série en fait, qui est beaucoup tournée en studio. Alors que c'est une série qui sent la street, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est une des premières séries à se revendiquer d'une identité comme ça, new-yorkaise, très, très affirmée. Certains épisodes, d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont toujours très, très efficaces avec ce cachet de la télévision américaine, évidemment, des années 70-80. Mais on y croit beaucoup, alors qu'en fait, il y a quelques plans tournés dans New York qui reviennent d'ailleurs en boucle. Alors, quand on enquille comme ça la série pour la chroniquer et qu'on voit tous les épisodes, on voit bien qu'il y a des plans récurrents. Mais quand on n'en voit qu'un épisode de temps en temps, comme ce qui se passait quand j'étais gamin, eh bien, on ne se rend pas vraiment compte. Et en fait, c'est beaucoup tourné dans des studios. Alors, des studios, ça ne veut pas dire on décore en intérieur, hein, c'est aussi en extérieur. Mais en tout cas, c'est beaucoup tourné dans des studios et parfois par... Des réalisateurs assez balèzes. Je crois que Richard Donner a travaillé sur la série. Il y a aussi Jean Ozouark, qui est un réalisateur hyper intéressant, hein, le réalisateur français qui avait fait Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui a fait aussi Quelque part dans le temps, d'après Matheson, qui est un très très bon film avec Christopher Reeve. Et puis un casting, ça sent la street, donc il y a un casting de sale gueule. Hein, on peut voir au détour des épisodes James Woods, Harvey Keitel, Christopher Walken. Il y a même un petit Stallone à un moment, Sylvester Stallone, qui pointe le bout de son nez. Et la série est, créée par Abby Mann. Et Abby Mann, mais surtout, en fait, c'est pas trop Abby Mann, en fait, qui va apporter une certaine véracité à la série. C'est vraiment Telly Savalas. Parce que Telly Savalas, il est grec. Et donc, la série se passe dans le quartier grec aussi. Donc, du coup, il y a cette véracité du quartier grec que Savalas va amener dans la série et qu'il va essayer de respecter et de faire respecter tout au long de la série. Parce que, bon, la série, c'est lui. D'ailleurs, il y a eu le remake. Le remake n'a pas fonctionné, bien que ce n'était pas mauvais, mais le remake n'a pas fonctionné parce que Kojak, c'est Telly Savalas. C'est cet acteur physiquement très impressionnant qui dégage aussi quelque chose de très flegmatique tout en étant très impressionnant physiquement. Donc, on se dit, bon, il est très flegmatique, mais j'aimerais pas trop qu'il m'en mette une quand même. Voilà, donc c'est ce physique particulier, parce qu'il a aussi un petit aspect inquiétant, Telly Savalas. Mais en même temps, il a aussi une certaine coolitude. Hein. On avait parlé d'un film de guerre qui s'appelle « Bon baiser d'Athènes » de Georges Pankosmatos, où d'ailleurs, il est question d'une petite danse, d'un petit sirtaki hein, dedans. Mais on voit bien comment Telly Savalas en fait, s'empare de la série pour en faire un objet... Alors, une série qui va en plus avoir des déroulés très particuliers. Il va y avoir des... Elle va connaître la période des épisodes qui se font presque une heure avec les coupures pub. Puis après, il y aura une période avec des épisodes plus longs sur les dernières saisons, plus à l'anglaise, j'ai envie de dire. Mais bon, moi, j'ai retrouvé avec plaisir... alors, c'est inégal, hein, tous les épisodes ne se valent pas. Mais j'ai retrouvé avec plaisir le Telly Savalas de mon enfance. Alors, Damien, ce n'est pas ton enfance, toi. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, cette série de Kojak?
Là, tu risques de prendre un coup de vieux parce que Kojak était diffusé alors que j'étais pas encore né et j'ai même pas eu de replay à la télévision. Alors tu as bien mis en avant qu'en effet l'histoire de Kojak était très liée à son acteur Telly Savalas. Notamment, tu as commencé à aborder le cas de la sucette qui est en effet quelque chose que l'acteur a commencé à utiliser pour arrêter de fumer et au final c'est resté collé à son personnage parce qu'il a aussi utilisé dans la série. Il y a d'autres éléments de sa vie personnelle qu'on retrouve. Par exemple, moi j'ai découvert que c'était un joueur de poker de niveau classe mondiale et donc il y a un épisode où il est censé perdre au poker mais il se retrouve avec une super main et en fait il est littéralement sur le point de gagner, il fait semblant de perdre et je pense que c'est des éléments qui font référence justement un peu à sa vie personnel. Autre petit détail, on a évoqué le réalisateur qui avait participé à Kojak. En effet, il y a Richard Donner qui est le réalisateur de Superman, de L'Âme Fatale. Donc normalement, il connaît bien tout ce qui est un peu lié. Alors pas pour Superman, mais L'Âme Fatale liée à la police et à certaines extravagances. C'est aussi le producteur des Contes de la Crypte. Et Jeanne Oswald, pareil, c'est drôle parce que lui, c'est le réalisateur de Supergirl. Du coup, on reste un peu dans le sujet des super-héros. Mais il a fait aussi beaucoup d'épisodes de séries, notamment Supernatural et Fringe, qui sont des séries très récentes que j'ai pu voir, et Columbo. Et si je termine en parlant de Columbo, c'est que je trouve que Kojak, il a un peu ce truc à la Columbo, c'est-à-dire on a un personnage principal qui mène l'enquête, sauf que Kojak, il est beaucoup plus sérieux, et en fait, les affaires auxquelles il a affaire, je les trouve... elles ont quelque chose de toute particulière. C'est-à-dire que les épisodes, il y en a plein, mais je trouve que chaque épisode a son élément particulier qui nous donne envie de rester jusqu'à la fin. Il y a très peu d'épisodes doubles, au moins chaque saison, au moins un épisode double, il y en a très peu, ce qui veut dire qu'on peut les regarder un peu dans le désordre, mais je trouve que chaque épisode a des contextes très imaginatifs. On va avoir les trucs classiques, meurtre d'un inconnu, on va avoir des meurtres où la police est impliquée, des gangsters, ou même des affaires qui vont être très personnelles. Dès la première saison, je crois que c'est un des premiers épisodes que j'aime beaucoup, où un des collègues de la police commet un meurtre, il essaye de faire passer ce meurtre pour quelqu'un qui a voulu se venger, et en fait, cette personne qui commet le meurtre, on comprend que c'est quelqu'un qui travaille dans le même bureau de Kojak, et en plus il va devoir travailler avec Kojak pour trouver qui a fait le meurtre, et ça c'est une enquête c'est ma préférée. Bon, elle arrive au tout début, il y en a d'autres qui sont très très cool et qui impliquent la police. Dans la saison 4, on a un policier qui tue par accident son coéquipier, tous ses autres collègues le blacklist parce qu'il a tué un des leurs, et lui il explique que c'est pas lui qui voyait pas très bien, c'est une erreur quoi, et au final Kojak va être là pour l'assister, va l'aider au point où Kojak va se trouver même en danger à cause de lui. Et j'aime beaucoup ça. En fait, dans beaucoup d'épisodes, Kojak, il est un peu borderline avec la loi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très droit qui va toujours appliquer la justice. C'est la personne qui a toujours raison. Mais il y a très souvent où ça va être limite. Il y a un épisode où il veut faire tomber un gangster qui poursuit depuis extrêmement longtemps. Et pour ça, il va faire semblant de sortir de la drogue. Mais ils vont sortir qu'une partie de la drogue qu'ils avaient en saisie pour réussir à le piéger et tout. Et bon, là, c'est surtout des épisodes concentrés sur la police, il y en a d'autres, mais je trouve que chaque épisode arrive à apporter une fraîcheur, une intrigue différente, et à montrer... il y a toujours des personnages différents, il y a toujours des personnages intéressants. C'est ça qui donne envie d'aller jusqu'au bout de l'enquête avec Kojak.
Alors, Kojak, c'est aussi un personnage qui est une sorte d'idéaliste, hein, c'est-à-dire qui croit vraiment en la justice. Du coup, il est borderline sans l'être, c'est-à-dire que c'est pas l'inspecteur Harry, c'est quelqu'un de très méticuleux, de très... D'ailleurs, moi, je pense qu'une des sources d'inspiration, parce que tu parlais de Columbo. Alors, Columbo, on sait, derrière, il y a Larry Cohen, tout ça. Enfin, Columbo, c'est l'idée de connaître le criminel et l'assassin. Mais dans Columbo, il y a une morale. Enfin, il y a une morale, en tout cas, l'assassin ne réchappe pas à la sagacité de Columbo, joué par le génial Peter Falk, voilà. Dans la série Kojak, on est plus, pour moi, il y a moins le côté Wood Unit. On est plus, pour moi, chez Ed McBain, la série du 87e district avec le commissaire Steve Carella, qui est une série de bouquins extraordinaires. Moi, j'en ai lu quelques dizaines, mais il y en a plein, en fait. Je ne pense pas les avoir tous lus, qui a été republié en omnibus en France, mais j'en ai lu pas mal quand même, et qui a été publié avant la série noire. Et c'est pour moi, Kojak, c'est cet esprit-là, c'est-à-dire on est chez des flics et c'est leur travail au quotidien, quoi. C'est vraiment leur travail d'enquête, le côté même ennuyeux parfois que peut avoir de faire une enquête, le côté pas glamour en fait des enquêtes. C'est pas Starsky Hutch, quoi. C'est qui est aussi une chouette série qui sent bien la street d'ailleurs aussi de l'époque qu'on aime tous beaucoup, mais qui est pas très réaliste parce que bon, Starsky Hutch, ils auraient ruiné la police depuis longtemps en budget cascade, on laisse tomber, quoi. Là effectivement, le Kojak, c'est un personnage
terre à terre au final.
Ouais, très terre à terre. C'est toi et moi en fait, Kojak. C'est toi et moi si on était flics et enquêteurs et qu'on avait envie de bien faire notre boulot, voilà. Bon, toi et moi en plus baraqué, mais quand même, bien que tu sois beaucoup plus baraqué que moi. Voilà, vous n'avez pas la vision, mais bon. Et par contre, il y a un truc, moi, qui je pense est important. C'est pour ça que je rapproche ça d'Ed McBain, parce que je rapproche ça de la littérature hard-boiled, parce qu'en fait, c'est une série très comportementaliste. C'est pas très moral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale. C'est pas moralisateur. C'est pas qu'il n'y a pas de morale, mais la série n'est pas moralisatrice. Les gentils ne s'en sortent pas forcément. Les méchants ne sont pas forcément punis. C'est une série assez réaliste, en fin de compte, et qui est un peu, quelque sorte, qui va annoncer New York Police Blues, tout ça, toutes les séries qui vont un peu dynamiter, Capitaine Furio, comme on disait en France, qui vont un peu dynamiter la série policière, puisqu'on va voir des policiers au travail dans ce qu'il y a de moins glamour, et Kojak, c'est pas toujours très glamour, parce que c'est des flics au travail, quoi. Voilà, donc c'est, moi, je trouve ça très intéressant, et bah, donc, voilà, il y a toutes les saisons, c'est un super coffret, c'est chez Elephant Film, ça plaît aux jeunes comme aux vieux, parce que les vieux retrouvent le personnage de leur enfance, et puis les plus jeunes, ben, ils découvrent un personnage fort, parce que c'est un personnage fort qui est particulièrement bien interprété par un acteur très charismatique, qui trouve là le rôle de sa vie, puisque c'était plutôt un acteur de second rôle, et qui là trouve le rôle de sa vie. D'ailleurs, pour la plupart des gens, je ne suis pas sûr que beaucoup soient capables de citer des films dans lesquels Telly Savalas a joué, hormis quelques grands classiques comme Les Douze Salopards, par exemple, d'Aldrich. Mais par contre, tout le monde va vous dire Kojak tout de suite. Voilà, ça, c'est clair et net. Donc, ça s'appelle Kojak. Et ce n'est pas réservé qu'à Thomas Roland, parce que Thomas Roland n'est pas là aujourd'hui, mais il aime tellement Kojak qu'il a la même coiffure que lui. Et comment...
Oh, celle-là, elle est magnifique.
Et donc, ça s'appelle Kojak. C'est disponible chez Elephant Film. Écoutez Culture Prohibée. Chez Elephant Film, alors je vais faire un bond dans le temps, je me rapproche d'aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'une série dont les premiers épisodes sont arrivés début 2020, et qui sont des adaptations des aventures de Roy Grace, qui est donc un personnage créé par l'auteur de Polar, Peter James. Et Roy Grace, qui est joué par John Sims.
C'est le maître dans Doctor Who.
Et voilà, je savais bien que j'allais Du coup, Damien va vouloir regarder la série, voilà, qui est joué par John Sims, qui est un excellent acteur qu'on avait pu aussi admirer dans cette série qui jouait sur les paradoxes temporels, série policière qui s'appelait Life on Mars, qui était assez chouette comme série. Et John Sims, qui a plutôt bon goût dans ses choix de carrière, là, il campe Roy Grace, qui est donc policier à Brighton, donc sur le bord de mer en Grande-Bretagne. Et Roy Grace, c'est un commissaire de police torturé, sa femme a disparu. Alors, elle a disparu, sa femme. On ne sait pas si elle est morte ou si elle a disparu, elle a complètement disparu. Et Roy Grace, il est donc du coup un tout petit peu torturé. Et puis surtout, le fait de chercher sa femme, le fait d'être pris aussi dans une certaine forme de désespoir, l'a amené à travailler, par exemple, à utiliser des méthodes peu communes, comme par exemple travailler avec un voyant. Un voyant qui est plutôt bon, hein, qui lui donne des bons résultats, donc avec qui donc, il continue de travailler. D'ailleurs, il a des méthodes peu orthodoxes, mais du coup, il y a une sorte de scribouillard de la presse locale, de la presse de Caniveau, qui passe son temps à le ridiculiser dans les journaux. Il est très, très, très mal vu, par sa hiérarchie. Et il finit par être mis sur la touche. Heureusement, il a un pote qui va venir le sortir du marasme, parce que c'est un enquêteur hors pair, hein, il faut dire. Donc, et qui a besoin de lui pour travailler sur des cold cases, sur des disparitions. Et Richie Campbell vient donc chercher John Sim pour lui dire, écoute, John, tu es un bon enquêteur. Enfin, tu es Roy Grace, tu es un bon enquêteur. Et tu vas m'aider à me sortir d'une situation très, très compliquée. Effectivement, c'est le meurtre d'une riche et mondaine, Katia Bishop, qui est, comment dire, l'épouse d'un éminent homme d'affaires de Brighton. Parce que dans cette série, on voit aussi les liens police, pouvoir, voilà, donc... il marche sur des œufs en fait. S'il loupe cette affaire, c'est sûr que sa carrière, elle est complètement foutue, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas de refaire appel à son voyant d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, il s'en fout. Et à partir de là, bon, ça c'est la première enquête, et il va y avoir toute une série d'enquêtes. Il va traquer un violeur en série. Il va traquer là sur les différentes saisons. À un moment, il va les récupérer aussi. Il y a des gamins, des jeunes adultes qui font un enterrement de vie de garçon, et puis ils font une blague, ils enterrent vivant leur pote, mais avec un truc pour le faire respirer, sauf qu'il réapparaît pas. Enfin, ce genre de choses, il fait des enquêtes comme ça. À un moment aussi, il va retrouver un vieux cadavre de femme qui correspond avec un peu un cadavre qui aurait pu être celui de sa propre femme si elle avait été tuée au moment où le cadavre a été tué. Donc il y a toujours plein de moments. Comme ça, il va rencontrer aussi une Cléo, une doctoresse qui s'occupe... de travailler en médecine légale, dont il va tomber amoureux, mais au même moment, sa femme va peut-être réapparaître. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de... La série, c'est ça. Alors, on est vraiment plongé dans ces séries typiques anglaises, c'est-à-dire, c'est des saisons à deux ou trois épisodes, des épisodes d'une heure et demie, avec une... Alors, il y a un fil rouge, c'est cette histoire de Grace, de Roy Grace, qui est vraiment très bien campé par John Sim, qui cherche sa femme, qui ne peut se résoudre au fait qu'elle est peut-être décédée. Et ça, c'est le fil rouge. Et puis, à côté de ça, il y a toutes ces enquêtes. Ces enquêtes qui touchent souvent, en fait, plutôt les classes aisées de la ville de Brighton et qui donnent une image assez peu ragoûtante d'une certaine frange de la population. Et ce qui fait l'originalité de la série, c'est vraiment les deux acteurs. C'est vraiment l'alchimie qu'il y a entre Richie Campbell, donc, qui fait Glenn Bronson, et donc John Sim, qui fait Roy Grace. Et en plus, alors, c'est assez étonnant, mais en termes de mise en scène, il y a des vrais beaux moments de mise en scène, par moments, des beaux plans séquences, une belle photo... Donc, du coup, alors, pourtant, ça raconte des histoires assez noires, en fait. C'est assez glauque, hein, quand même, hein, dans ce que ça raconte. Et bon, je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, je suis obligé un peu de déflorer les intrigues. En tout cas, il y a 17 romans, donc je pense qu'ils envisagent de tous les adapter. Il y a une quatrième saison qui n'est pas encore arrivée en France, mais elle ne va pas tarder. Là, pour l'instant, on peut voir les trois premières, donc grâce à Éléphant de Film. Et bon, vous voulez découvrir la ville de Brighton, vous voulez avoir un policier torturé, d'excellents acteurs, une bonne mise en scène et des histoires un peu glauques. Bon, je crois que c'est signé tout de suite. Voilà. Donc, ça s'appelle Grace. Alors, vous pourrez découvrir si Roy Grace est touché par la grâce ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne série. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Et surtout, j'ai très hâte de voir la suite maintenant. Donc, ça s'appelle Grace. C'est disponible chez Éléphant de Film. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale série. On va rester chez Elephant Film pour une série alors là, qui est méconnue et qui, je pense, aura un mérite d'être redécouverte. Alors, pour tout dire, moi, je remercie Elephant Film de la sortir en support physique. Moi, je l'avais découvert, cette série, grâce à Polar Plus, en fait. La série est sur Polar Plus, parmi l'immensité du bouquet Canal, qui est toujours qui est très riche en séries, en films. Et pour moi, cette série, tout de suite, là, Thin Blue Line. Alors, Thin Blue Line, en plus, qui est une expression pour la fine ligne bleue, qui est même utilisée aux États-Unis par des mecs d'extrême droite, hein, pour défendre la police. Et en particulier, c'est venu à un moment en réaction. Il y a eu des groupes sur les réseaux sociaux, il y a eu un fil qui a circulé où on appelait ça Thin Blue Line en réaction justement au mouvement Black Lives Matter. Donc, mais c'est pas du tout le propos de la série, parce qu'en fait la série elle vient avant ça. Thin Blue Line a toujours été une expression utilisée dans la police, parce que même justement on en avait parlé quand on avait rendu hommage à William Friedkin, mais Friedkin avait fait un documentaire hyper réaliste sur la police où il était parti avec des patrouilles la nuit quand il travaillait pour la télé, qui s'appelle aussi Thin Blue Line, que donc personne n'a vu, parce qu'il est introuvable. Je pense que même il a peut-être disparu, et ça fait partie des rares choses de Friedkin que j'ai pas vues, et j'aimerais bien le voir un jour, voilà. Et là, Thin Blue Line, c'est une série suédoise, donc les deux premières saisons ont été diffusées en 2021-2022, et puis depuis, il n'y a pas eu de saison, mais là, j'ai appris qu'il allait y avoir une troisième saison qui allait arriver. Et c'est une série qui a failli un peu disparaître à cause du Covid, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est une série qui, pour moi, c'est une grosse claque. Alors là, on est un cran au-dessus de ce dont on vient de parler. Pour moi, c'est l'équivalent suédois à la géniale et méconnue série américaine Southland, série de Ann Biederman, qui a été diffusée entre 2009 et 2013, et qui a duré 5 saisons et qui raconte le quotidien des policiers en patrouille. Et là, on n'est pas sur la vie des flics brillants, on n'est pas sur la vie des flics qui vont résoudre des enquêtes hyper complexes et tout. Là, on est sur la vie des flics qui sont appelés quand il y a un salaud qui fout sur la tronche de sa femme, quand il y a un gamin abandonné qu'on trouve dans la rue, quand il y a des émeutes raciales, racistes. Enfin, on est vraiment sur ce quotidien-là. Donc là, on est dans quelque chose de très sociétal. Et alors, ce qui fait que cette série est intéressante, c'est que c'est une série suédoise. Et qu'on voit très très rarement l'envers du décor de la Suède. Alors aujourd'hui, on sait que l'extrême droite est très forte en Suède et tout ça. Mais au moment où la série est faite, là, on est au début des années 2020, le rêve suédois existe toujours. Hein. Même moi, à titre personnel, je connais des gens qui sont allés vivre là-bas pour vivre, soi-disant, le rêve de la social-démocratie. Et là, la série se passe à Malmö, en Suède. Et on suit Sarah, Magnus, Jessie, Léa, Daniela et Faye, qui sont 6 membres d'une brigade de police. Et évidemment, ils ont des vies personnelles plus ou moins compliquées. Enfin, c'est normal, comme tout le monde, quoi, j'ai envie de dire. Et qui essayent de vivre dans cette ville où les tensions communautaires, où la violence est de plus en plus prégnante. Et où, justement, et ça c'est intéressant, le contrat social est de plus en plus entaillé, j'ai envie de dire, et de plus en plus esquinté, de plus en plus froissé. Et on sent dans cette série, c'est une série qui a vraiment senti, on sent monter en fait la haine entre communautés, on sent monter certaines formes de criminalité, on sent monter aussi la détresse et la folie chez les gens. Parce que la première saison, parce qu'en plus on est vraiment dans leur quotidien, donc il y a aussi comment ça se passe au boulot, les relations entre collègues et les briefs, les débriefs, mais aussi les directions, c'est-à-dire les directions à la police suédoise, comment elles travaillent en lien avec les services sociaux, comment tout cela est articulé. C'est une radiographie de la société suédoise. Je pense que l'ambition et vraiment de faire quelque chose à la The Wire, en fait, version suédoise, hein, parce que... Alors c'est en même temps, c'est une série qui veut jamais aller au-delà de ce qu'elle est, qui veut jamais, comme le dit l'expression triviale, péter plus haut que son cul, comme on dit, comme le dit l'expression triviale. C'est-à-dire que c'est une série qui prend le parti d'être une série réaliste, mais qui ne va pas vous raconter des choses extraordinaires. Donc à partir de là, vous adhérez pas. Mais c'est vraiment, vraiment passionnant parce qu'on est plongé dans la ville de Malmö et c'est un peu comme dans The Wire, en fait, où le personnage principal, c'est la ville, quelque part. Alors, c'est pas autant poussé que dans The Wire, où chaque saison, on avait des protagonistes différents et on retrouvait des protagonistes des précédentes saisons qui se croisaient, mais le sujet était fort différent. Vous allez avoir une saison sur la lutte contre la drogue, une saison sur la vie des dockers, voilà. Là, on est... vraiment sur la vie à Malmö. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des très très beaux personnages, très très bien écrits. Il y a la nouvelle recrue idéaliste, évidemment, Sarah, mais qui porte le poids aussi derrière, dans l'héritage familial, de la forte importance de l'orthodoxie. Il y a aussi, en filigrane, il y a une question d'évangélisme hein, qui est assez étonnant. Il y a aussi un très beau personnage qui s'appelle Léa, qui incarne vraiment toutes les contradictions liées au fait d'être une femme flic turque, voilà, intégrée dans un pays de blancs. Elle est superbement campée par Gizem Erdogan. C'est vraiment, pour moi, le personnage. D'ailleurs, la saison 2 va beaucoup tourner autour de ce personnage. Elle vit une relation conflictuelle en fait, avec son père, qui est un vieil épicier et qui est souvent agressé, mais qu'elle trouve qu'il appelle un peu trop souvent la police, qu'ils ont autre chose à faire que de simplement aller régler des problèmes d'incivilité. Enfin, c'est un personnage qui symbolise bien... Que le contrat social, en fait, en Suède, il est en train de se déliter, que le corps social est en train de se déliter. Il y a aussi des personnages plus ambigus. On a un certain Magnus, qui est interprété par Oscar Thoringe, qui est peut-être le seul acteur que vous connaissez, parce qu'en fait, il joue dans pas mal de choses dans les pays nordiques. Quand vous verrez sa tête va vous dire quelque chose, qui est un personnage plutôt ambigu. Et puis, il y a en plus, évidemment, l'influence aussi de The Shield, parce que c'est beaucoup filmé à la Friedkin, c'est beaucoup filmé en caméra embarquée, c'est beaucoup filmé à la manière de toutes ces séries américaines, en fait, voilà, dans la forme en tout cas. Et puis dans le fond, ça pose la question du fait que la police, c'est peut-être un microcosme, mais que la police, elle reflète vraiment ce qu'est la société. Voilà, c'est-à-dire que si on dit que la police est raciste, ce n'est pas parce qu'on est dans une société raciste. Mais par exemple, toutes ces questions-là se posent dans la série, c'est hyper intéressant. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que la saison 2, elle franchit encore une étape, parce qu'on est aux prises avec le Covid-19 qui vient d'arriver. Et puis, il y a 39 travailleurs clandestins qu'on retrouve morts, brûlés vifs dans un entrepôt industriel. Et là, en Suède, à Malmö, tout le monde est particulièrement choqué par ça. Et la solution de la police, c'est d'expulser tous les ressortissants illégaux vivant dans des logements à risque. Donc évidemment, ça va créer des tensions, soi-disant pour les protéger, hein, pour les amener vers... Normalement, ils devraient être amenés vers des logements sécures, mais bon, c'est pas forcément ça qui va se passer. Et dans une société où il y a le Covid, toutes les tensions en plus exacerbées par ces drames qui se jouent, c'est assez, assez passionnant. Par exemple, on voit des personnages qui se mettent à invectiver les foules, on voit des personnages qui pètent des câbles en fait avec le Covid, hein, tout simplement, comme on a pu le voir chez nous, quoi. Et c'est une des rares fictions qui le traite comme ça, en fait, sans jugement, sans rien, où en fait c'est simplement le quotidien de ces policiers. Donc en plus, alors la fin de la saison 2 est complètement sidérante. Ça faisait très très longtemps qu'une série m'avait pas sidéré comme ça. Ça pourrait d'ailleurs être la fin de la série. C'est pour ça que je me demandais un jour si une saison 3 se profilait à l'horizon. Il se trouve qu'une saison 3 arrive, qui sera la dernière. Hein, visiblement, les créateurs de la série expliquent que ce sera la dernière. Bon, on a très hâte de la voir, on espère qu'elle sera à la hauteur. La série a survécu au Covid, hein, c'était pas évident pendant un moment. On a cru qu'elle ne reviendrait pas. Et j'ai parlé tout à l'heure de Southland. Je rappelle quand même que Southland, c'est une série, on en avait parlé il y a très très longtemps dans l'émission. Damien n'était pas encore chroniqueur dans l'émission d'ailleurs. Et Southland, c'est une série, par exemple, qui a changé plusieurs fois de chaîne de télé. C'est une série qui était tellement excellente qu'elle a été virée de plusieurs chaînes parce qu'elle allait trop loin dans ce qu'elle montrait de la société américaine. Mais à chaque fois, grâce à la pression du public et des internautes, il y avait une chaîne qui reprenait le casting et les réalisateurs et la série pour produire une saison suivante. Et tout faisait un truc homogène en cinq saisons. Bah, j'espère qu'ils arriveront à ce même équilibre. Pour l'instant, les deux premières saisons de Thin Blue Line sont donc disponibles chez Elephant Film. Elles sont particulièrement réussies particulièrement scotchante. Si vous n'avez jamais vu cette série, vous allez retrouver la sensation que vous avez eue à découvrir The Shield, par exemple. Vous allez rester scotché à votre fauteuil en voyant une série sur le quotidien des policiers qui est un peu moins tranquille que Kojak, même si Kojak était assez réaliste. Là, on est dans l'ultra-réalisme. Donc ça s'appelle Thin Blue Line et c'est disponible chez Elephant Film. Écoutez Culture Pouilleux. Cher Damien, toi, je sais que tu es venu aussi avec des séries et que... Bon, on va commencer peut-être avec un petit Creepshow qui est... Alors, Creepshow qui est disponible donc chez ESC.
Alors, Creepshow, je me suis rendu compte que je l'ai longtemps confondu avec une autre série que je regardais quand j'étais plus jeune, qui était Les Contes de la Crypte. Parce qu'ils ont tous les deux décidé d'avoir un peu le même personnage squelettique à l'avant. Comme tu l'as introduit au tout début, Creepshow, c'est une série d'anthologie horrifique par épisode. C'est-à-dire que chaque épisode va avoir des histoires particulières détachées des autres. Et en fait, chaque épisode a deux histoires particulières à l'intérieur. Cette série, elle est inspirée du film éponyme de George Romero et de Stephen King, qui donnera les comics qui porteront également le même nom. Ce qui rajoute de la confusion avec Les Contes de la Crypte qui viennent aussi de comics. Mais le casting, vu que, pour l'évoquer rapidement, vu qu'on a plein d'épisodes qui tournent, on va avoir plein d'acteurs qui vont bouger et venir. Il y a deux acteurs que je veux juste citer. Une petite dédicace à Tobin Bell, qui est le tueur éternel au puzzle dans Saw, et une autre dédicace à Samantha Sloyan, qui joue dans un épisode dont je parlerai juste après. Alors moi, je suis fan des anthologies d'horreur. Je pense que c'est parce que quand j'étais petit, j'adorais lire Les Chairs de Poule, et aussi parce que justement, j'ai grandi avec Les Contes de la Crypte et surtout ma série de cœur Avez-vous peur du noir, qui est l'une des raisons pour laquelle je voulais me faire des amis en plus de jouer à Yu-Gi-Oh avec moi. Alors Creepshow, il y avait déjà une série. Là, c'est une nouvelle qui est refaite. Elle a déjà plusieurs saisons. C'est une série qui est quand même pas mal fauchée, mais qui fait toujours un effort. On va avoir du numérique, mais on va aussi avoir l'utilisation de marionnettes, de costumes, de maquillage pour créer quelques ambiances qui sont très, très cool. Alors, je vous ai parlé de l'épisode avec Samantha Sloyan. Il s'appelle 20 minutes avec Cassandra, qui est un épisode très fun avec une sorte de... monstre poilu qui massacre un peu les personnes autour d'elle. Samantha Sloyan, vous l'avez peut-être déjà vu parce que c'est une tête récurrente de Mac Flanagan qui adore du coup faire des séries d'horreur, que vous avez peut-être d'ailleurs vu cette année dans Life of Chuck en tant que professeur de danse. Il y a un épisode aussi dans la saison 1, il y a deux épisodes que j'adore vraiment, c'est L'homme à la valise, qui a une prémisse très très cool, qui est un mec qui est dans une valise, il y a un jeune qui va le rapporter chez lui. Déjà la situation est très étrange, il va vouloir le sortir et il va se rendre compte que quand cette personne a mal, il crache de l'or. Et à partir de ce moment-là, il va le présenter à ses amis et la situation va dégénérer. Mais surtout l'épisode, moi, qui m'a le plus impressionné, il est là dès la saison 1, dès le premier épisode, c'est La maison de poupées, qui est un épisode vraiment, vraiment cool. Alors, ça raconte l'histoire d'une fille qui a littéralement une maison de poupées chez elle avec plein de personnages. C'est un peu sa passion du moment. Et en fait, à l'intérieur de cette maison de poupées, il y a la figurine du tête coupée qui va commencer à apparaître. Et l'autre chose qui devient bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'elle part durant la journée et qu'elle revient le soir, les figurines à l'intérieur de la maison de poupées ont bougé et on sent qu'elles ont peur de cette tête. Et c'est un épisode qui va utiliser le montage pour faire des trucs qui sont très très cool. On va avoir un grand angle compensé, un travelling compensé sur la maison pour nous faire rentrer à l'intérieur. On va filmer les pièces et ce qui est cool, c'est qu'on voit les figurines qui bougent. Et il y a un moment où la petite fille va dire pour résoudre l'enquête, je vais acheter une figurine de policier, je vais le mettre à l'intérieur. Et on a plusieurs plans où justement on voit le policier se balader dans la maison. On n'a pas de. Il parle pas, hein. C'est juste des figurines, on les voit pas bouger, c'est juste qu'elles regarde un endroit, ils y sont plus, regarde ailleurs. Et c'est un épisode qui est très cool, qui rend le tout bizarre et qui arrive à faire un truc qui est extrêmement marrant, c'est que ça fait une histoire de maison hantée dans une maison de poupées, dans une maison miniature. Et c'est vraiment un épisode que j'ai adoré. Vraiment, c'est mon préféré.
Ah, c'est dès le début en plus de la série. Mais moi, mon préféré, il est aussi dans la saison 1, mais c'est Skin Crawlers. Avec, je suppose que tu aimes beaucoup, avec cette histoire de régime où il faut bouffer une sorte de verre. Il est horrible.
Oui, il est affreux.
Ouais, vas-y, hein, vas-y. Ouais. J'ai beaucoup parlé déjà.
Mais oui, c'est un épisode qui est affreux, mais qui est aussi très amusant. En plus, il y a ce côté milliardaire qui va chercher le régime magique que tout le monde doit prendre, où des vers viennent susurrer la graisse. Et vu qu'on est dans un creep show, ça va forcément mal tourner à un moment. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que c'est une anthologie d'horreur. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont vraiment qu'on pourrait mettre à la poubelle, mais il y a toujours ce moment où on va avoir un petit truc vraiment spécial qui va nous dire. Vraiment, il y a des histoires qui méritaient d'être mis en avant sur le petit écran. Il y a une dernière chose, moi, que j'ai hâte, c'est que j'ai jamais lu les Creepshow parce qu'ils en ont fait aussi des comics. Et j'ai appris que normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, ils seront réédités pour une sortie en France. Et j'ai hâte de m'en plonger dedans.
Je précise que 20 minutes. Oui, Cassandra, c'est la saison 4. Il y a des épisodes assez cultes. Et l'épisode dont j'ai parlé avant, il est quand même scénarisé par Joe Hill, qui est le fils de qui vous savez, Stephen King, et réalisé par Tom Savini, hein, alias Sex Machine du Titi Twitter dans From Dusk Till Dawn, quand Robert Rodriguez faisait encore des bons films. Mais je pense que Tarantino l'aidait un peu. Beaucoup même. Donc on vous conseille évidemment Creepshow, qui est donc disponible chez ESC, les 4 saisons. Alors, comme Damien l'a dit, comme toutes les séries anthologiques, c'est inégal. Mais il n'en demeure pas moins que si vous êtes fan d'horreur, il y a certains épisode que vous allez adorer, je pense à un épisode qui s'appelle George Romero in Three Dimensions aussi qui est assez chouette. Enfin, on arrête là parce que l'émission faut quand même qu'on avance. Et là, Damien, toi, tu voulais basculer sur une série culte là qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs, qui est dispo chez Warner, The Last of Us, qui est disponible sur HBO et qui est l'adaptation d'un jeu vidéo lui aussi culte. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale série.
The Last of Us, c'est une série déjà de jeux vidéo qui va donner la série dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une série post-apocalyptique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'apocalypse, entre guillemets, a eu lieu dans notre passé. En fait, en 2023, l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, le cordyceps, qui va faire connaître au grand public le cordyceps. Ça arrive à cause d'un changement climatique où le champignon se propage de plus en plus. Et en fait, la série suit l'histoire 20 ans après le début de cette pandémie. On a Joël, un des personnages principaux, joué par l'omniprésent Pedro Pascal, mais qui s'est quand même très bien joué. Et Ellie, qui est jouée par Bella Ramsey, dont, pour une grande partie d'entre vous, il suffit que je dise, on a peut-être une petite maison, mais une maison fière, et vous arrivez à identifier qui c'est. Ce duo, totalement lié par le hasard, se lance dans un pays RIP qui va faire traverser les États-Unis, des États-Unis en fait dévastés par ce champignon. Alors, vu que c'est une série post-apo avec des gens affectés qui s'en prennent aux gens, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir au casting, parfois pour rester longtemps, parfois pour mourir. C'est le cas dès le début de la saison. On va avoir Anna Tov, qui était l'actrice principale de Fringe. Du coup, ça fait un petit lien avec ce que je disais tout à l'heure, qui va être présent dans la saison 1. On a aussi Jeffrey Wright, qui apparaît dans la saison 2, que vous pourrez retrouver dans le coffret qui sort, vu qu'il y a la saison 1 et 2. Et en showrunner, on va avoir Greg Mazin, qui est un scénariste pas ouf. Quand on regarde les films qu'il a fait, il a fait les Scary Movie 3 et 4, il a fait les Very Bad Trip 2 et 3, mais qui, au niveau des séries, a sorti le monumental Tchernobyl, qui est une des meilleures séries des années 2010, une des courtes séries. Et aussi, au scénario, on a Neil Druckmann, qui est le co-créateur du jeu The Last of Us. Alors, le jeu, c'est un jeu qui a été fait chez Naughty Dog, qui sont très connus pour leur licence Crash Bandicoot et Uncharted. Et en fait, c'est un jeu qui a été multi-récompensé, qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Il est sorti en 2013. Cette année-là, il a gagné l'Oscar des jeux vidéo du World of Give of America. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jeu possède un thème. Le premier jeu, c'est un peu celui du deuil et de la reconstruction. Le deuxième jeu, et donc la deuxième saison, c'est la haine. La série et le jeu fonctionnent grâce à des personnages qui sont vraiment forts, très attachants. On se lit parfaitement à eux, sauf qu'on a affaire à un monde cruel. L'introduction qui a marqué beaucoup de monde le montre très bien, avec Joël qui essaye de s'en sortir avec sa petite fille dans le monde qui est littéralement en train de s'effondrer devant ses yeux. Dans la saison 1, il y a eu des réécritures. C'est normal, de base le jeu c'est un jeu d'action, on va tirer sur des monstres et on va essayer d'avancer. L'écriture des personnages est incroyable, mais ça a beaucoup plus d'action, là où la série a besoin de prendre son temps et en profite pour construire ses personnages. Et parmi les réécritures qui ont fait le plus parler, pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons, c'est l'épisode 3 qui s'appelle Longtemps, où en fait on suit Frank et Bill vont avoir une relation à la fin du monde. Et en fait, la façon dont le personnage est traité dans le jeu et la façon dont il est traité dans la série n'est pas du tout la même façon, mais qui donne un personnage absolument incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que The Last of Us, à l'intérieur de lui, il a une certaine mélancolie. Il a beaucoup de violence, mais il a une certaine mélancolie. Et ça me rappelle par certains aspects un je ne sais quoi des Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón, où le monde est en train de s'effondrer, une partie des gens sont apathiques et les autres tombent un peu dans la violence pour y survivre. La deuxième saison, qui s'inspire du jeu, et comme étrangement a eu la même réaction que lorsque le 2 du jeu est sorti, c'est-à-dire que lorsque le 2 est sorti, le 2 a été très peu apprécié, enfin il a été très discuté, il y a eu beaucoup de choix qui ont été discutés et opposé, alors qu'avec le temps qui s'est écoulé, les gens ont reconnu que le 2 était un très bon jeu. Cette saison 2 qui a débuté, elle a eu pareil, ils ont fait des choix scénaristiques qui sont extrêmement étranges. Déjà, ils ont coupé la série en deux parties pour avoir une saison 2 et une saison 3, ce qui crée une certaine dissonance. Mais surtout, l'élément le plus bizarre dans l'écriture qu'ils ont fait, c'est que la dernière scène du jeu, qui donne énormément son sens à toute l'histoire, elle est présente dès les premiers épisodes de la saison 1. Alors, normalement, la saison 2 devait avoir pour thème la haine. Ils ont gardé un des passages forts de l'introduction du jeu, qui est la mise à mort d'un personnage de manière très brutale. Mais la façon dont ils sont en train d'écrire l'histoire, ça crée un mystère pour ceux qui ont joué au jeu, mais aussi pour ceux qui sont en train de découvrir la série. Parce que la façon dont les personnages sont écrits est vraiment très différente. Et comme beaucoup de personnes, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite pour mettre une conclusion. Est-ce qu'on a enfin réussi à adapter en série un jeu vidéo, ou est-ce que finalement l'épopée était trop belle et elle prend fin ?
Le jeu est tellement vieux que même moi j'y ai joué, le premier. sur PS3 à l'époque, et j'ai jamais réussi à le finir. C'était un jeu super dur, je me rappelle. Après The Last of Us, donc de Neil Druckmann et Craig Mazin, disponible chez Warner et donc visible sur HBO. Damien, tu voulais terminer cette sélection de séries par deux animes, Free Run Beyond Journey's End et puis Mashal. Alors tous les deux sortis chez Crunchyroll, la première d'après Kaneito Yamada et Tsukasa Abe et la deuxième d'après Hajime Komoto.
On va commencer par Frieren parce que Mashal, il va être assez simple à résumer et Frieren mérite de prendre son temps. Déjà, alors, je ne savais pas que Crunchyroll faisait des DVD et des Blu-ray. Ça, c'était ma grande découverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas Crunchyroll, c'est l'équivalent d'un Netflix, mais dédié justement à l'animé, au manga. Et Frieren, c'est l'une des plus belles découvertes que j'ai eues. C'est pour moi un monument du manga en devenir. En fait, c'est une histoire qui a l'intelligence de commencer par la fin. Ça se passe dans un univers fantastique. On y suit l'histoire de Frieren, qui est une elfe magicienne et qui est en fait une ancienne membre du groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi des démons et restauré l'harmonie dans le monde après une quête qui a duré 10 ans. Dans ce groupe, on comptait le héros humain Imel, qui est le personnage le plus connu, Imel le Brave. On avait Frieren, qui est connu pour tuer les démons. C'est vraiment sa spécialité, tueuse de démons. On a un guerrier nain et on a aussi un prêtre humain qui adore l'alcool. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le premier épisode, il commence au moment où ils ont battu le roi démon. Ils viennent de rentrer de ce voyage après l'avoir vaincu. Et là, phénomène rare, on va avoir une pluie de comètes et les amis vont décider de se réunir pour regarder cette pluie de comètes. Et ils vont prendre la décision que cette pluie de comètes qui arrive tous les 50 ans, la prochaine fois, ils le reverront. Pour Frieren, qui est une elfe qui va vivre des milliers d'années, pour elle c'est juste quelques minutes, mais pour les autres, c'est quand même une réunion où il faudra attendre pour prendre son temps. Ils se retrouvent, on est toujours au début du premier épisode, 50 ans se sont écoulés et Imel, qui était un grand héros, a pris 50 ans et maintenant c'est un vieux monsieur qui a du mal d'ailleurs à monter une colline et arriver tout en haut pour voir à nouveau l'appui de ses toiles filantes. Et ce qui va se passer, c'est que quand elle va vouloir venir le revoir encore une fois, cette fois Imel il sera mort. Et à partir de ce moment-là, Frieren va prendre conscience que les gens, surtout les humains, ils vivent pas durant très longtemps et que Imel, elle en était très proche, elle aurait pu prendre du temps avec lui, apprendre à le connaître, mais ce ne fut pas le cas. Et à partir de ce moment-là, elle va décider de faire un voyage qui va être une mission qui va être assez importante, parce qu'elle va découvrir la possibilité d'accéder à un lieu où on pourrait parler avec les gens qui sont morts, et elle va essayer d'y aller pour revoir Imel et lui dire une dernière fois au revoir. Dans ce voyage, elle va rencontrer ses anciens compagnons qui sont encore en vie, et ses anciens compagnons vont lui passer un peu leurs disciples. On va voir Fern, la jeune fille magicienne extrêmement douée. On va aussi avoir Star, qui a la particularité d'être un guerrier terriblement puissant, mais froussard. Ce qui est assez particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Frieren, c'est un animé que je décrirais comme un slice of life, c'est-à-dire des moments de tranches de vie, qui va beaucoup reposer sur la nostalgie. Le temps qui passe est quelque chose d'essentiel. On a beaucoup de moments où on va s'y attarder. Il y a beaucoup d'épisodes où, en fait, Frieren arrive dans un village avec ses apprentis, il nettoie la statue d'Imel, le héros. Pour une partie des villageois, c'est ce grand héros qui les a protégés. Pour une autre partie des villageois, ils ne savent pas du tout ce que fait cette statue ici, ni pourquoi les anciens en prennent soin. Donc il y a aussi la question du souvenir qui s'efface à travers le temps. Il y a un épisode qui est magnifique où on a un personnage, un nain, qui protège un village depuis des années. Et il ne sait pas pourquoi il protège ce village. Et c'est un épisode qui permet de mettre en avant que Frieren, c'est des épisodes qui marchent avec des allers-retours entre le passé et le présent. Et vers la fin de l'épisode, on découvre qu'il a une femme, que c'était une humaine, que cette femme est morte, et en fait qu'il lui avait fait la promesse de protéger ce village. Et il y a beaucoup d'épisodes comme ça qui sont très beaux, qui sont absolument magnifiques, mais Frieren n'est pas décrit comme un slice of life, il est décrit comme un shonen, donc comme un manga de baston. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la baston, il arrive au deuxième épisode, qui prend tout un temps, qui permet de poser les bases, qui est que Fern, son apprenti, doit apprendre un sortilège, ce sortilège d'attaque. Ce sortilège d'attaque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit l'apprendre pour affronter un démon qui a créé un sort qui peut transpercer toutes les défenses. Il lui a fallu des centaines d'années pour le maîtriser. Frieren n'a pas réussi à le battre, elle a juste réussi à le figer et en fait, le sort qui le fige va prendre fin, donc elle revient pour l'affronter. Durant tout l'épisode, on nous explique que ce sort est impénétrable et en fait, quand l'affrontement arrive, ce n'est pas Frieren qui affronte ce démon, c'est Fern, son apprenti. Fern réussit à arrêter son attaque et réussit à tuer le démon, et le démon ne comprend pas comment un humain a pu maîtriser son sort à lui. Et on apprend qu'en fait, avec le temps qui s'est écoulé, ben, les elfes auraient laissé ça s'écouler, mais les humains qui ont une vie très courte ont décidé d'essayer de comprendre le sort, de voir comment il fonctionnait, ont réussi à se l'approprier. En fait, ce sort qui pouvait tout transpercer, c'est devenu le sort de base des humains pour se battre. C'est toute une réflexion à travers le temps qui passe. Les combats sont absolument incroyables. Et si vous pouvez regarder Frieren, je vous promets que c'est un shonen qui est vraiment pas comme les autres, qui prend son temps pour raconter ses histoires, qui prend son temps pour parler ses personnages et qui crée une ambiance assez unique dans l'univers des combats. Frieren, qui est disponible chez Crunchyroll, tout comme Mashle. Alors vous allez voir, pour Mashle, ça va être très court d'en parler, parce que Mashle, c'est un manga qui, lui, est surtout amusant. Il est décrit comme amusant, il est décrit comme un One Punch Man dans l'univers d'Harry Potter. Alors One Punch Man, c'est un héros de shonen qui peut tout gagner avec un seul coup de poing. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais l'anime est très intéressant, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mashle, c'est la même chose, c'est un gars qui est dans l'univers où tout est régi par la magie et gagne en frappant sur les choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet univers, la magie est omniprésente, et si vous n'avez pas de pouvoir magique, vous êtes considéré comme un objet, en fait vous êtes censé mourir. Et notre héros, il s'appelle Mash Bunhead, il n'a aucun pouvoir magique. Un des policiers magiques va se rendre compte de ça, il va vouloir s'en prendre à lui, il va se rendre compte qu'il ne peut pas, sauf que Mash techniquement doit être condamné à mort, et donc il va lui dire que le seul moyen pour lui qu'il survive, c'est qu'il rentre à l'école de magie, qu'il se fasse passer pour un magicien, et qu'il devienne un des champions des magiciens, qu'on appelle un élu divin, pour changer tout ça. Pourquoi c'est super drôle? Alors, on l'a dès le premier épisode où notre policier arrive, lui lance un sort de boule de feu pour essayer de le tuer, et Mash va gifler le sort. Il ne va pas l'esquiver, il ne va pas le repousser, il va donner une gifle à la boule de feu qui va partir dans les corps. Et la majorité des problèmes auxquels il va faire face, ils vont être réglés par ça, par sa force et par la violence. Il y a des moments qui sont très simples. Par exemple, on l'enferme dans un labyrinthe dont personne ne peut sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il défonce les murs, parce qu'il est très fort. Il se retrouve face à un exercice de magie où, en fait, les lettres bougent. Il doit les remettre dans le bon ordre pour que le texte apparaisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient une plume à la main, il la casse, ça fait un coup de pression aux lettres qui se mettent toutes seules dans le bon ordre. Tout le monde, normalement, a déjà vu un film Harry Potter. Tout le monde a déjà vu une partie de Quidditch. C'est très simple, pour faire du Quidditch, vous êtes sur un balai volant où il faut lancer une balle et la passer à travers un cercle. Il n'a pas de pouvoir magique, il ne peut pas voler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un balai, le mettre entre ses jambes, il va sauter très haut, et arriver très haut, il va commencer à battre des jambes tellement vite qu'il va rester en l'air. Voilà, Mashle, c'est ça. C'est-à-dire plein de situations où la magie, on est censé en avoir besoin. Il fait un truc idiot qui utilise la force, ça fonctionne. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a tous les personnages un peu à la OSS 117, où on le voit faire un truc débile. Tout le monde sait que c'est débile, et il y a des personnages qui mettent en avant le fait que c'est débile. Mais c'est tellement drôle que ça vide totalement l'esprit.
Je connais cette théorie, Damien, je connais cette théorie. Donc ça s'appelle Mashle, et c'est disponible chez Crunchyroll. Et il y a 2 saisons. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.